France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Interactif 01 45 24 7000 pour vous répondre, Florian Philippot. Un appel de Leïla dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous Leïla.
Oui, bonjour. Donc voici ma question pour Monsieur Philippot. Monsieur Philippot, vous expliquez que vos assistants parlementaires au Parlement européen ont été mis en cause pour leur fonction partisane dans votre mouvement. Mais vous passez sous silence le fait qu'ils ont surtout été épinglés pour n'avoir jamais mis les pieds au Parlement et pour avoir perçu des salaires pour un travail qu'ils n'ont pas effectué. Donc avoir des fonctions militantes ou partisanes n'est pas la même chose qu'occuper un emploi fictif, il me semble. Merci.
Florian Philippot.
Oui, bonjour madame. Non, vous trompez. L'immense majorité des cas sont des cas, c'est Martin Schulz qui avait lancé cette affaire, qui lui revient en boomerang, d'ailleurs j'ai l'impression. Ça concernait l'organigramme du Front National qu'ils avaient trouvé courageusement sur le site du Front National, puisqu'on ne l'avait pas caché, et en expliquant qu'on ne pouvait pas à la fois avoir des fonctions à l'intérieur du mouvement et être assistant, c'est leur interprétation qui est totalement bizarre. Quant aux quelques cas que vous signalez, ils sont contestés formellement par les personnes intéressées et par les eurodéputés qui les emploient, notamment quand il s'agit d'assistants locaux qui n'ont pas d'obligation du tout d'être à Strasbourg ou à Bruxelles, puisqu'ils doivent être en circonscription, c'est-à-dire dans leur pays, dans le pays d'élection de leurs députés.
La justice est saisie, elle se prononcera.
Oui, la justice se prononcera, voilà. De toute façon, voilà.
Pierre à Chevigny, bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour.
Florian Philippot vous écoute.
Bonjour Monsieur Philippot, bonjour Monsieur Veil. Je vous dis bonjour. Oui, ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelle est l'attitude du Front National vis-à-vis de la décision d'augmenter la CSG qui sera prise bientôt par le gouvernement. Là, j'ai entendu ce matin que dans la revue de presse que M. Nicolas Bétou trouvait que c'était une très bonne mesure, l'augmentation de la CSG. Moi, ça me paraît aberrant. Comme je suis retraité, ça me paraît tout à fait aberrant. Parce que nous, on va souffrir les retraités, ceux qui touchent, qui ont nos revenus. Donc, c'est quand même bien embêtant. Je trouve que c'est très, très injuste.
Florian Philippot.
Oui, nous sommes totalement opposés à cette hausse de la CSG. Nous l'avions dit déjà pendant la campagne, nous avions alerté d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec l'analyse de monsieur Bétou, bon, c'est un journaliste, mais qui explique qu'il faut une flat tax, un impôt, c'est-à-dire un taux unique pour tout le monde. Je pense que c'est le summum de l'injustice fiscale et je suis moi très favorable à la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que le taux augmente avec le niveau de revenu. Alors après, est-ce que l'impôt sur le revenu aujourd'hui est suffisamment progressif? Ça, c'est une vraie question. Mais en tout cas, la CSG, qui est une forme de flat tax, est très même s'il y a quelques taux différents, mais globalement, elle est très inégalitaire et elle renforce les inégalités. Et nous sommes opposés à cette augmentation qui serait compensée pour quelques catégories de Français, mais pas effectivement pour une majorité de retraités, pas non plus pour des indépendants, etc. On a vraiment le sentiment que ce gouvernement continue dans la lignée des précédents, c'est-à-dire l'augmentation non seulement du poids de l'impôt, mais en plus de l'injustice fiscale. Parce qu'il est pris dans la nasse de l'austérité. Voilà. Parce qu'il refuse de changer de politique économique, d'aller vers une politique qui crée de la richesse, de l'emploi, de la croissance, notamment par le patriotisme économique. Et donc, il va vers la seule solution qu'on connaisse, c'est-à-dire d'augmenter en permanence les impôts. Et en plus, de le faire de manière particulièrement, injuste. Donc, entre cela.
Mais il y aura la suppression de la taxe d'habitation.
Oui, c'est-à-dire qu'on va, alors on verra d'ailleurs sur 3 ans, on va reprendre plus d'une main ce qu'on va donner un peu de l'autre main, comme d'habitude, parce que finalement les gens au final paieront davantage. Et puis derrière la philosophie de cette suppression de la taxe d'habitation, il y a la volonté de s'en prendre aux communes. Vraiment de s'en prendre aux c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le triptyque métropolisation, régionalisation,
grande
région.
Et la suppression des cotisations salariales, ça aussi, ça va améliorer le pouvoir d'achat.
Ça ne compense pas pour les retraités, les indépendants ou d'autres. Ça compense pour une partie seulement des gens. C'est-à-dire que, pour revenir à la taxe d'habitation, ils sont vraiment sur le triptyque métropolisation, interco, grosse région, Union européenne. Eh bien, nous sommes sur le triptyque de la proximité commune, département, État. Oui. Et nous croyons qu'on peut être parfaitement moderne et que la proximité a quelque chose, au contraire, d'extrêmement moderne, alors que les grosses structures, grosses régions, grosses interco, finalement, ne sont pas bonnes pour l'aménagement du territoire.
Alors, justement, vous évoquiez les collectivités locales, enseignement supérieur, armée, législation antiterroriste, fiscalité. Comment analysez-vous, là, les tensions dans ces secteurs, en ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron?
De manière assez inquiète, c'est-à-dire qu'une baisse de 331 millions d'euros sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, je pense que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Faire des économies sur ce secteur-là, ça n'est certainement pas... Moi, je suis favorable à une bonne gestion, hein, entendons-nous bien, mais faire des économies sur l'innovation, non seulement, évidemment, ça grève l'emploi de demain et là, tout simplement la création, mais donc, en plus, on y perd, même financièrement, parce qu'on ne crée pas les richesses qu'on aurait dû créer si on avait investi. Donc vraiment, on est perdu, c'est vraiment du très court terme, du très très court terme, parce qu'on est vraiment perdant en termes de création, de richesses, d'innovation et d'emploi, et en plus, on est perdant financièrement au bout de quelques années, parce qu'on n'a pas créé d'innovation qu'on aurait dû créer. Donc ça, j'y suis très opposé. Quant à la défense nationale, je soutiens le chef d'état-major des armées, monsieur De Villiers, général De Villiers. Je trouve que monsieur Macron se comporte très mal. Il s'est, en rappelant, je suis le chef, c'est une attitude de petit chef.
Mais voilà.
Ça n'est pas une attitude de chef d'État.
Il rappelle une évidence qui figure dans la Constitution.
Si c'est une évidence, on n'a pas besoin de la rappeler. Si on a besoin de la rappeler, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr qu'il est le chef des armées, mais c'est évident. Imaginez-vous le général de Gaulle s'agiter en disant « je suis le chef ». Bon, bien sûr que non. On n'aimait même pas que le général de Gaulle, plus récemment encore. Bon, je ne parle pas deux derniers qui étaient un peu... Mais disons des présidents, des grands présidents qu'on a eus. Mais je veux dire, là, c'est une attitude de petit chef. Et puis surtout, restreindre de 850 millions d'euros le budget de la défense nationale, non. Non, pas certainement pas. Alors que nos soldats sont déjà à l'os, nos armées sont déjà à l'os, et qu'il y a des défis, des menaces immenses, et que les Français sont très attachés à leur armée. Et voilà, il faut également prendre soin de notre industrie de la défense. Parce qu'on parle de l'armée, on parle pas beaucoup de l'industrie de la défense. C'est une des dernières grandes industries françaises, et j'ai l'impression que le gouvernement a l'intention de ne pas s'en occuper.
Thomas est en ligne, il écoute France Inter, il veut participer à notre émission. Thomas, vous êtes le bienvenu.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu poser une double question qui est liée, hein, qui sont liées. D'abord, c'est qu'est-ce qui différencie idéologiquement Laurent Wauquiez d'un Florian Philippot ? Et du coup, en filigrane derrière cette question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer derrière la restructuration du FN une scission en fait avec les plus fachos du FN à droite, avec du Marion Maréchal Le Pen, avec du Bruno Gollnisch qui resterait sur ces positions-là, et les plus à droite des Républicains qui irait regrouper un Florian Philippot, un Nicolas Bay, des gens comme ça. Est-ce que ça vous paraît envisageable ou pas ?
Florian Philippot ?
Non, ça me paraît pas envisageable. Et je ne reprends pas le qualificatif que vous avez eu concernant deux de mes camarades. Qu'est-ce qui nous différencie d'un Laurent Wauquiez ? Bon, écoutez, Laurent Wauquiez est un européiste. Donc nous sommes souverainistes, nous sommes pour une Europe des nations et de la coopération et pas pour l'Europe fédérale de Bruxelles, ça fait déjà une grosse différence. Puis bon, on les a vus à l'œuvre, enfin je veux dire, bon, ils y font partie. Mais sur les sujets régaliens, ils ont beaucoup enfumé, je crois que c'est sa stratégie, ça va être d'essayer d'enfumer, de refaire du Sarkozy 2007. Je crois que les Français seront plus dupes de tout cela. On s'agite, on sort le Karcher, etc. Tout ça c'est verbal. Mais dans la réalité, je rappelle que le mandat Sarkozy, auquel a participé M. Wauquiez, c'est celui qui a supprimé le plus de policiers, de gendarmes, de militaires. C'était celui déjà auparavant qui avait supprimé la double peine et qui a augmenté les chiffres de l'immigration. Donc je veux dire, même sur les sujets régaliens, c'est de l'agitation, ce qui n'est pas notre cas. Et enfin, nous avons de graves différences, mais également économiques, puisque je crois qu'ils soutiennent la loi travail XXL pour des droits des travailleurs XXS. Là, nous sommes opposés à la loi travail XXL par ordonnance.
Et donc le Front National ne risque pas une scission. Il y a quand même des courants dans votre parti, disons une tendance identitaire, et puis on le découvre dans votre contribution, une tendance plus ouverte sur maintenant certains sujets de société ou sur les problèmes sociaux. En gros, vous dites dans votre contribution, il faudrait faire un peu plus de Mélenchon. Et tout ça peut tenir ensemble dans le même parti.
Je dis pas du tout qu'il faut faire plus de Mélenchon.
Il faut parler du travail, des salaires, des retraites, du pouvoir d'achat.
Ça fait bien longtemps que nous en parlons. Je pense qu'il faut être vraiment en pointe sur ces sujets qui intéressent les Français aussi. Emploi, pouvoir d'achat, petite retraite et salaire. L'austérité, puis je veux dire la pénibilité au travail, par exemple. Mais moi, je suis favorable à ce que...
Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Évoque en permanence.
Mais moi, il n'y a pas d'opposition. Je suis très, très attaché à ce qu'on défende l'identité nationale, la culture française, l'assimilation républicaine. La voix de la France dans le monde, le rayonnement, la francophonie, tout ça, c'est l'identité nationale. Et donc la maîtrise très forte de l'immigration aussi. Et de l'autre côté, est-ce qu'on défende la solidarité ? Est-ce qu'on défende le progrès social ? Est-ce qu'on défende la souveraineté nationale ? Tout ça doit se faire ensemble. C'est ça le dessein d'un grand parti de gouvernement. C'est certainement pas de scinder les choses, saucissonner les choses.
Et si les choses ne changent pas au sein du Front National, vous êtes prêt à quitter ce parti si on ne vous entend pas ? Vous n'avez pas répondu clairement.
Mais j'ai pas le sentiment qu'on va dans la mauvaise direction. Ce que je vous dis là, c'est une stratégie déjà mise en œuvre depuis des années par Marine Le Pen. C'est ça, la stratégie. D'ouvrir les sujets. On a déjà créé des collectifs socio-professionnels qui oui. parlent de tout, de tous les grands sujets, la santé, l'écologie, le reste, la banlieue, là. Et je crois qu'il faut la protection animale. Il faut continuer. Voilà. Donc, j'ai pas l'envie de tout bousculer. Je dis simplement, si on veut faire le débat de la refondation pour un jour arriver au pouvoir et changer les choses, c'est-à-dire remettre notre pays debout, eh bien, il faut continuer de travailler.
Alexis, bonjour. Alexis, bonjour. C'est à vous.
Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, monsieur Veil. J'avais une question simple. Je voulais avoir l'avis de monsieur Philippot sur une nationalisation des banques afin de pouvoir limiter la dette de la France et savoir comment est-ce qu'il se positionne à ce niveau-là et savoir s'il voulait suivre l'exemple islandais qui refuse de rentrer dans l'Union en gardant sa monnaie nationale. Et vous qui prenez un retour au franc, je veux savoir quelle est votre position par rapport à cela. Merci.
Florian Philippot.
Ben, l'exemple islandais est extrêmement intéressant. Il devrait être mieux connu. Effectivement, c'est un pays qui ne s'est pas soumis aux diktats financiers après la grande crise de 2008. Et figurez-vous qu'il s'en est très bien sorti. Voilà, il s'en est magnifiquement sorti. Et il n'a pas fait comme les autres, c'est-à-dire se soumettre aux demandes des banques sans en même temps en avoir le contrôle. Et il a gardé effectivement sa monnaie nationale. Moi, je ne suis pas pour un retour à l'ancien franc. Hein. Je suis pour construire une nouvelle monnaie nationale, oui. Que les choses soient claires. Et ce pays, donc, logiquement, refuse évidemment d'être dans l'Union européenne et dans la zone euro. Il a bien raison. Il s'en sort très bien. Oui, s'il faut nationaliser une banque, j'y suis favorable. En tout cas, lorsqu'on les aide, il faut en prendre en même temps le contrôle. Ça a été la grande arnaque de 2008-2009, c'est-à-dire qu'on a versé des milliards d'euros et on n'en a pas pris le contrôle et elles ont continué de jouer au casino avec notre argent. Oui. Donc il faut en prendre le contrôle. Et se définanciariser, ça veut dire faire en sorte qu'on puisse emprunter directement à la Banque de France pour se financer, je parle de l'État, alors qu'aujourd'hui nous sommes obligés, notamment depuis le traité de Maastricht, de passer par le réseau des banques privées avec oui. intérêt, ce qui nous a coûté cher. Aujourd'hui, dans la dette française, dans la dette publique, il y a une énorme part d'intérêt versé aux banques. Voilà comment on définanciarise une économie. Mais ça suppose beaucoup de courage.
Florian Philippot, je vous écoute depuis le début de cette interview sur France Inter ce matin. J'ai l'impression de vous entendre durant la campagne présidentielle. Mais vous avez perdu.
Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, vous ne changez rien.
Bah, on n'a pas changé de conviction, heureusement. Si vous imaginez, je serais venu chez vous en disant, j'ai tout changé finalement, je pense plus du tout ce que je pensais.
Comme vous avez perdu, vous posez pas des questions, vous vous remettez pas en cause. Moi, je vous sens pas vous remettre en cause.
Mais je suis fidèle à mes convictions. Je suis un patriote français, je resterai un patriote français. Je suis pas soumis, là je viens de vous répondre sur les banques. C'est pas parce que je disais et nous disions quelque chose pendant la présidentielle qu'on va être soumis au système bancaire aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, nous avons fait attention, nous sommes arrivés au second tour, nous sommes un grand mouvement qui suscite déjà l'adhésion de beaucoup de millions de Français, donc il faut continuer. Que je ne réfléchisse pas, non, puisqu'au contraire, nous avons parlé pendant toute la première partie de l'interview de ma contribution à la refondation. C'est bien que je suis une des parties prenantes de cette réflexion.
Florian Philippot était l'invité de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci.
Il est 9h05.